Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
Bienvenue sur Radio Crésus, la radio qui vous aide. Alors aujourd'hui, effectivement, de nouveaux témoignages, des témoignages de terrain, des témoignages poignants. Vous connaissez le principe, des personnes nous appellent, nous exposent leurs difficultés et nous y répondons avec le plus grand sérieux possible. Et nous avons en ligne Aline. Aline ?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour Aline. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qui vous arrive ?
Bah, écoutez, depuis quelques années maintenant, je me retrouve dans une situation financière très, 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 très difficile.
Oui, c'est-à-dire, plus précisément ?
Voilà, j'ai été... Je suis tombée dans une spirale complètement infernale, hein, du fait qu'il y a quelques années de ça, j'ai souscrit énormément de crédits.
Oui, des crédits à la consommation ?
Des crédits à la consommation, oui. des prêts personnels, voilà, la facilité surtout de pouvoir les souscrire. Et j'avais essayé de remonter un peu à la surface en faisant un rachat de crédit il y a 3 ans de ça, ce qui m'avait permis quand même de bien remonter.
Et le rachat de crédit a fonctionné, donc on vous l'a accordé?
Oui, on me l'avait accordé, oui.
D'accord, c'était un rachat qui se montait à combien?
50 000 euros.
D'accord, et c'était pour l'ensemble de vos crédits que vous aviez?
Exactement.
D'accord. Donc là, du coup, vous n'aviez plus qu'un seul crédit ?
Oui, j'avais plus qu'un seul crédit.
Avec une seule mensualité à payer ?
Une seule mensualité à payer sur 12 ans.
D'accord, oui.
Voilà. J'avais eu une petite trésorerie.
En plus, d'accord.
Donc voilà, je veux dire, ça y est, c'est la fin de mes ennuis, tout ça. On repart sur de bonnes bases. Ok, bon, c'est une grosse échéance, mais oui. On va faire avec. Après... Il y avait possibilité de l'épurer au fil des années, tout ça. Si jamais de moi-même, je faisais des efforts.
Et au niveau, au niveau des mensualités, je dirais que ça a beaucoup diminué vos mensualités sur le...
Pas trop. Disons que j'avais pour un peu plus de 1 000 euros par mois d'échéance avec tous ces crédits. Et je suis arrivée à 500 et quelques.
Oui, d'accord. Donc c'est quand même important de réduire votre... Vos dépenses à ce niveau-là.
Oui, exactement. Mais bon, ça a duré un petit moment. Et un jour, il y a eu des événements familiaux qui a fait que j'avais toujours droit au crédit de la consommation.
Oui, vous n'aviez pas clôturé, je dirais.
Non, enfin, je l'avais fait.
Oui.
J'avais envoyé les lettres, tout ça, pour préciser que je ne voulais plus donc avoir l'obtention de ces crédits, tout ça.
D'accord, c'était des crédits renouvelables.
Des crédits renouvelables, oui. Mais bon, je veux dire, ces lettres, c'est comme si ça ne sert à rien si on les envoie, hein, parce qu'ils vous les renouvellent automatiquement.
D'accord. Alors, c'est vrai que dans le cadre d'un rachat de crédit, hein, il est prudent, je dis, et même fortement recommandé, de mettre un terme à toutes ces lignes de crédit qui restent ouvertes,
oui.
Hein, si on ne les ferme pas. Il faut expressément, effectivement, demander que ce crédit se termine et,
oui.
qu'on n'ait plus de la tentation, pour ne plus avoir tout simplement la tentation de puiser encore dans ces crédits renouvelables. Alors, dans votre situation, effectivement, le rachat de crédit vous a permis de réduire les mensualités pour que ça colle par rapport à votre capacité, je dirais, de remboursement. Mais du coup, dans la mesure où vous aviez toujours ces lignes ouvertes, on est toujours tenté de puiser dedans. Hein.
Oui, mais ça a été le cas.
Et voilà, et donc vous êtes...
Donc je me suis retrouvée encore dans la...
D'accord, oui. Oui.
Encore en grosse difficulté du fait aussi que je suis tombée enceinte. Donc,
c'est un heureux événement.
J'ai continué le temps qu'il fallait continuer à travailler, voilà.
Oui.
Mais pendant tout mon congé maternité, qui a quand même duré pas moins de 6 mois, tous les primes que je pouvais percevoir par rapport à mon travail,
oui.
Je ne les avais pas.
Oui, oui.
Donc là, ça a fait un gros manque.
Une baisse de ressources, oui.
Voilà. J'exerçais une activité aussi qui me permet d'avoir un petit peu plus d'argent. Bon, ça, j'ai dû l'arrêter aussi. Enfin, voilà, pendant une année, ça a été l'enfer.
Et vous n'avez pas essayé de demander des délais de grâce?
J'ai demandé des délais, des pauses de paiement, des délais, tout ça, mais ils vous harcèlent, hein. C'est
oui.
Affolant, quoi.
Mais je dirais, il y a la démarche amiable, c'est une chose vis-à-vis des établissements de crédit, mais
ouais.
Si ceux-ci refusent, vous avez la possibilité, effectivement, de saisir le juge d'instance
ouais.
Ou le juge de proximité pour demander, effectivement, des délais de paiement. Et dans votre situation, a priori, ça aurait pu fonctionner puisque vous aviez une baisse de ressources suite à une modification, je dirais, de votre statut, hein, puisque vous étiez effectivement en congé maternité. Et donc, de ce fait, effectivement, le juge aurait pu prendre en considération cette situation et suspendre au moins la durée du congé, le paiement des mensualités.
Oui, mais sur le moment, peut-être que je n'étais pas au courant. Et puis même si je l'avais été, peut-être que je ne m'en sentais pas capable. J'étais complètement démotivée.
C'est vrai que dans certaines situations,
moralement, mon mari, je lui cachais des choses. Enfin, voilà, quoi. C'était... Puis un jour, j'ai dû tout lui dire, quoi. J'ai dû tout lui dire. Ça a été très, très, très dur.
Alors, c'est vrai que souvent, il y a un peu ce culte du secret hein, en matière de surendettement, hein, puisque c'est la situation dans laquelle vous êtes, et qu'on a tendance toujours à reporter l'échéance, de dévoiler le secret. On attend toujours parce qu'on espère que les choses s'améliorent, mais on se rend compte que finalement, on ne fait que s'enfoncer un peu plus. Et qu'il faut en parler autour de vous. C'est ce que vous avez fait. C'est ce qu'on peut recommander à nos auditeurs, hein, mais il ne faut pas hésiter.
Il faut mettre à un moment donné sa fierté, son orgueil de côté.
Voilà, hein, tout
ça,
à fait.
Je veux dire, voilà, hein, quand on a besoin d'aide, voilà, il faut en parler, quoi. Bon, ben moi, il n'y a que mon mari qui est au courant, bon, voilà, puis c'est ce qui est normal. Mais bon, après, l'approche famille, elle ne l'est pas, hein, parce que c'est pas évident, hein. L'argent, c'est quand même un sujet relativement tabou, hein, il faut dire ce qui est. Hein.
Oui, c'est vrai. En France, on est particulièrement sensible à ces questions-là. Et c'est vrai que...
Énormément. Et puis, il faut souvent faire aussi montrer que tout va bien. Voilà, le paraître aussi, c'est difficile aussi.
Oui.
Les gens, ils disent, mais pourquoi vous n'achetez pas de voiture? Mais pourquoi vous n'achetez pas de maison? Puis on n'a pas envie d'expliquer qu'en fait, on a quelquefois, à la fin du mois, on n'a même pas un euro pour acheter une baguette de pain, quoi.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Oui, mais ça, les gens ne veulent pas l'entendre.
Les gens ne veulent pas l'entendre, voilà. Mais c'est... On dit qu'il faut prendre le dessus, qu'il ne faut pas prêter attention, mais le regard des autres, c'est l'enfer, hein.
Oui. Oui, c'est important de le dire, hein, parce que...
On a beau se dire, oui, on s'en fout des autres, c'est ma vie, je fais ce que je veux, mais non, pas du tout. Hein, je veux dire, on fonctionne selon l'autrui. Hein.
Alors, c'est vrai qu'à Crésus, on est très conscient de cette situation-là, hein, du regard des autres. Et c'est vrai que lorsque les gens viennent nous voir, il faut les aider justement à garder la tête haute.
Ouais.
Parce que c'est aussi, je dirais, il faut rester digne même dans la difficulté. Ça, c'est vraiment, notre philosophie à Crésus, c'est que même si on a des difficultés, on ne doit pas être mis à l'index. Au contraire, il faut resserrer les liens de solidarité et aider les gens qui sont dans la difficulté. Alors, en l'occurrence, vous, je dirais, actuellement, vous en êtes où dans votre situation?
Actuellement, j'en suis, c'est stationnaire, on va dire. Voilà, je n'ai pas empiré ma situation.
Oui.
Voilà. J'ai donné tout ce que j'ai qui est carte de crédit à mon banquier.
Mmh.
Voilà, maintenant, oui. Je veux dire, je retire de l'argent.
Oui.
Donc à ce moment-là, bon, bah, j'ai conscience véritablement donc, de la valeur.
Oui, oui, oui.
Bon, c'est comme ça que je me rends compte que la vie est de plus en plus chère.
Oui, oui.
Voilà,
oui,
et puis du fait qu'on ait un enfant, parce que...
Et oui, c'est une charge, hein. C'est un bonheur, mais c'est aussi une charge.
C'est un bonheur, mais c'est une charge, hein. Voilà, il y a beaucoup de monde qui me disent « mais il faut faire un deuxième enfant, pour faire un deuxième enfant ». Je fais « non, je ne ferai pas de deuxième enfant, quoi,
oui.
Voilà ». Ça et ça et ça aussi, je veux dire, je préfère avoir mon enfant sera peut-être enfant unique, mais au moins, elle ne manquera de rien.
Oui.
Je ferai tout pour qu'elle ne manque de rien.
Oui, c'est important.
Me dire, avec un deuxième enfant, comment on va faire, je veux dire, enfin voilà, quoi.
Oui.
Je ne peux plus me retrouver dans cette situation de dire comment on va faire, quoi.
Et vous aviez envisagé de déposer un dossier de surendettement ou pas du tout?
Non, c'est psychologique. Hein.
Oui. Oui, oui, je comprends tout à fait. Oui.
Non, je veux essayer de... Je vais essayer par tous les moyens d'éviter ça.
D'accord. Alors, vous avez pris effectivement des mesures drastiques en matière de gestion budgétaire, là, si j'ai bien compris, ce qui permet de stabiliser la situation. Alors, l'idéal, ça serait effectivement que progressivement, vous arriviez effectivement à vous désendetter.
Oui.
Et donc là, à Crésus, on fait effectivement des points budgétaires régulièrement avec les personnes que l'on suit. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Hein,
C'est ce que je fais. Voilà. Dès que j'ai un coup de blouse, là, dès que je reçois une lettre, que j'en reçois des lettres. Hein, ouais. Attention, mise en demeure, attention,
dossier
de recouvrement. Enfin, voilà, dès que j'appelle, je dis voilà où j'en suis, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Ok, très bien. Voilà, quoi.
Oui. Alors, c'est vrai qu'il faut être psychologiquement bien armé pour justement faire face à toutes ces sollicitations et toutes ces procédures qui sont mises en œuvre. Et tant qu'on n'a pas le bénéfice de la procédure de surendettement, les créanciers vont vous harceler. Alors, il est vrai que c'est un choix. Vous avez tout à fait le choix de ne pas vous engager dans la procédure de surendettement. Ce n'est pas la solution dans toutes les situations. Hein. Mais c'est vrai que ça sera peut-être plus difficile pour vous. Mais je dirais que vous en tirez une certaine fierté à l'issue de... à la sortie du tunnel, je dirais. Hein.
Oui.
Ah, ouais. C'est clair.
Non, mais voilà. Je veux mettre énormément de temps à remonter...
Alors Aline, pour un mot de la fin, est-ce que vous avez des recommandations à faire à nos auditeurs ?
Ne soyez pas tentés. Assurez-vous vraiment que vous pouvez rembourser le crédit. Ne soyez pas tentés.
Il faut être prudent et vigilant.
Hein. Oui, prudent et vigilant, complètement. Quoi. C'est bien beau tous ces organismes de crédit, quoi. Ils fassent 3 000, 5 000, ça paraît rien au départ.
Bien sûr,
même des mensualités. Hein. Mais au fur et à mesure, on se retrouve vraiment
Merci.
La merde, excusez-moi.
Voilà, mais vous avez raison.
Voilà.
Merci beaucoup, Aline, pour ce mot de la fin.
De rien.
Et bon courage à vous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Crésus. Crésus, la radio qui vous aide. Crésus. Crésus, la radio qui vous aide.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Crésus, la radio qui vous écoute. Des témoignages de terrain, comme toujours, avec des personnes qui acceptent de prendre contact avec Radio Web Crésus. Aujourd'hui, nous avons Marie. Marie ?
Oui.
Oui, bonjour Marie.
Bonjour.
Vous êtes sur Radio Crésus. Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous amène à nous contacter ?
Ce qui m'a amené à vous contacter, c'est que j'avais des soucis avec mon entreprise. Et j'étais voir une amie qui m'a dit de venir vous voir pour m'aider à trouver une solution. Et puis, voilà quoi.
D'accord. Alors, quand vous parlez d'entreprise, vous aviez quel statut ? Vous avez quel statut dans cette entreprise ?
Auto-entrepreneur.
Auto-entrepreneur. Donc, c'est la solution miracle pour faire de l'argent, auto-entrepreneur. C'est ce qu'on dit, c'est facile à monter. En deux clics, on arrive effectivement à se créer chef d'entreprise, en quelque sorte.
Alors,
est-ce que... Non ?
Non, parce que moi, avant, j'étais en micro-entreprise.
D'accord.
Pendant 8 ans. Et après, avec... le nouveau truc qui est sorti auto-entrepreneur, Monsieur Sarkozy a bien voulu que tous ceux qui étaient en micro-entreprise et qui étaient adhérents à la CIPAV pouvaient passer directement auto-entrepreneur.
D'accord. Alors pour nos auditeurs, la CIPAV, c'est quoi ?
Alors la CIPAV, c'est une caisse de retraite.
D'accord. Et donc de ce fait, vous avez pu effectivement faire le... Il y avait une passerelle.
Voilà.
Une passerelle entre la micro-entreprise
et
l'auto-entrepreneuriat. Alors, est-ce que l'auto-entrepreneuriat, c'est la panacée pour se faire des revenus confortables ou pas du tout ? Qu'est-ce que vous pouvez en dire ?
Au début, c'était bien.
Oui.
Mais vu la conjoncture actuelle, c'était un peu plus difficile parce que toutes les entreprises ne connaissent pas le statut d'auto-entrepreneur. Ils ont peur.
Oui.
Ils ont peur de ce que c'est, comme ils ne connaissent pas, et les gens qui ne connaissent pas, ils adhèrent pas trop. Et c'était un peu difficile. Quoi.
D'accord. Et dans quel domaine d'activité vous...
Secrétariat.
Secrétariat, d'accord. Et donc vous disiez au début, ça s'est bien passé, c'est-à-dire que vous aviez effectivement un chiffre d'affaires correct.
Conséquent.
Oui, qui vous permet...
En micro-entreprise, mais comme je paye trop de charges, je me suis mis en auto-entrepreneur.
D'accord.
Mais après, comme le statut n'était pas vraiment reconnu par beaucoup d'entreprises les entreprises que je connaissais ont changé aussi pas mal de statuts au placé, quoi.
Oui, oui.
Alors, ça fait que...
Alors, c'est les politiques des entreprises qui ont changé, c'est ça, par rapport à la sous-traitance, par exemple.
Voilà. Il y a des grands directeurs qui ont changé, plus encore des petits directeurs dans les structures en bas, quoi.
Du coup, vous avez perdu des clients, en fait.
Voilà, j'ai perdu quand même pas mal de clients.
Et le chiffre d'affaires a forcément diminué.
Le chiffre d'affaires est descendu.
D'accord. Par contre, les charges que vous deviez payer, c'était auprès de quel organisme ?
Bah, il y avait l'URSSAF,
oui.
La CIPAV,
oui. RSI,
la Sécurité sociale, oui. Ouais, le RSI.
Voilà, d'accord, c'est URSSAF, oui, oui. D'accord.
Et puis, voilà, quoi.
D'accord. Alors finalement, vous avez votre chiffre d'affaires qui a chuté, c'est ça ?
Comment ?
Votre chiffre d'affaires a chuté.
Oui.
Voilà. Et de ce fait, c'était votre activité principale, cet auto-entrepreneuriat.
Oui, d'accord. C'était mon activité principale.
Et donc, vous êtes retrouvé en difficulté financière suite à cette baisse de ressources ?
Il n'y avait pas que ça. Il y avait ça. Plus aussi, je venais juste de divorcer.
Oui.
Suite au divorce, avec les frais que ça a engagés. Et puis le découragement ici, les entreprises qui ne répondaient pas à mes offres,
oui.
Tout ce qui va avec. Vous savez ce que c'est quand ça commence, et ben ça tombe quoi.
Et oui, donc si je comprends bien, il y a eu effectivement des facteurs conjugués, à la fois une séparation, donc qui veut dire qu'à un moment donné vous devez assumer seul les charges de loyer,
oui,
les charges locatives, etc. Et d'autre part, une baisse du chiffre d'affaires qui effectivement fait que vous n'avez plus de rentrée d'argent.
Tout à fait.
Et donc ces facteurs conjugués fait qu'à un moment donné, on est pris à la gorge, hein, tout simplement.
Tout à fait.
Et donc cette situation-là, vous la vivez comment actuellement ?
Actuellement, je la vis au jour le jour, comme on dit.
Oui.
J'essaye de m'en sortir, tant bien que mal. Et j'ai mes deux enfants qui m'encouragent à continuer. Voilà quoi.
D'accord. Et donc, vous avez changé d'activité ? Vous êtes toujours dans la même activité ?
Oui. Oui, j'ai justement en juin 2011, j'ai décidé d'arrêter, de fermer mon entreprise,
oui.
Parce que faut bien être réaliste à un moment ou à un autre.
Oui.
Quand il n'y a plus rien qui rentre, eh ben, il faut trouver une autre solution. Maintenant, je suis aide à la personne.
Oui. Vous êtes salarié ?
Oui, voilà, salarié dans une entreprise.
D'accord.
Et je travaille, j'ai un contrat de 25 heures, ce qui n'est pas gros.
Mmh.
Avec toutes les aides que j'ai autour de moi, j'assume, on va dire, assez bien certaines.
D'accord.
Choses,
alors, concernant les dettes que vous avez engrangées pendant votre auto-entrepreneuriat, mm-hmm. peut-être avant aussi, est-ce que vous avez trouvé une solution pour les payer ? Est-ce que c'est avec votre salaire actuel ?
Au début, j'y arrivais. Tout doucement à payer, et puis quand j'ai vu que je n'y arrivais plus, il fallait bien que je trouve une solution. C'est pour ça qu'on m'a dit de venir voir Crésus pour essayer de monter un dossier et puis de voir ce qu'on pourrait faire.
Alors, quelle est la solution qui vous a été proposée ?
Alors, la solution qui m'a été proposée, c'est de faire un dossier qui, pour une faillite commerciale.
Oui.
Alors, ce dossier qui a été monté, je l'ai ramené au tribunal de grande instance.
Oui, d'accord.
Où sera...
Donc, votre situation sera traitée, oui.
Où le juge décidera si oui ou non, il peut...
D'accord. Procéder à la liquidation,
voilà.
Ou au redressement en fonction de... Mais bon, vous avez cessé votre activité, donc a priori, ce sera une liquidation. Et donc là, oui. Vous avez une audience prochainement, c'est cela ?
Oui, tout à fait.
Qui a déjà été fixé. Donc, tenez-nous au courant sur la suite des événements, sachant qu'effectivement, là, votre situation est stabilisée pour le moment, hein, puisque vous avez changé de statut, on va dire, et qu'il faut effectivement trouver une réponse pour que vous n'ayez plus, je dirais, ces casseroles, ces dettes-là qui vous grèvent, hein, parce que le montant actuel de la créance est de combien ?
Alors,
de l'ensemble des créances ?
L'ensemble des créances, 25 000 euros.
D'accord. Donc, ce qui est quand même une somme conséquente.
Oui.
Et donc, il faudrait effectivement trouver une réponse adaptée pour éviter que ça vous grève dans votre vie à venir. Hein.
Oui, tout
alors,
à fait.
Est-ce que vous avez, on va terminer sur une dernière question hein, qui intéresse nos auditeurs. Est-ce que vous avez des conseils ou des recommandations à faire à nos auditeurs?
Alors, le conseil, c'est que ne jamais s'endormir sur ses lauriers.
Oui.
Et que dans la vie, rien n'est acquis, il faut se battre pour arriver à faire quelque chose.
C'est une belle philosophie, en fait, se battre. Hein.
Oui.
Il ne faut jamais cesser de se battre. Hein. Comme vous dites, ne pas se reposer sur ses lauriers. Oui. Rien n'est jamais acquis dans la vie.
Ne jamais baisser sa garde parce que... ça peut arriver à tout le monde.
Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Marie, pour ce témoignage poignant. Et à très bientôt.
Ben, je vous remercie. Et je remercie beaucoup Crésus pour m'avoir aidé dans ces moments difficiles.
Eh bien, ça nous fait bien plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, radiocrésus.fr.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Crésus, la radio qui vous écoute. Avec nous aujourd'hui Thierry Edmond, avocat stagiaire, bonjour. Et à l'antenne Régis Alter de Radio Crésus. Alors sans attendre, nous allons prendre un témoignage de terrain, témoignage de Pierre. Pierre,
allô? Oui, bonjour.
Oui, bonjour Pierre. Alors, vous connaissez le principe de l'émission, et il s'agit de nous exposer en fait ce qui vous arrive pour que nos auditeurs, je dirais, prennent toute la mesure des difficultés que vous rencontrez et surtout que nous puissions vous apporter des réponses qui soient profitables à tous. Alors Pierre, pouvez-vous nous raconter quelle est votre vie actuellement?
Ben voilà, donc maintenant je suis en retraite.
Oui.
Et puis donc j'avais contacté pas mal de crédits.
Oui.
Et comme on dit, c'est un engrenage. On en reprend un autre pour renflouer le premier, on fait le deuxième pour le troisième, etc., etc. Puis à la fin, ça se trouve avec 6 crédits. Il y en a disons même plus que moi, d'ailleurs. Je suis au courant de tout ça. Et puis voilà, donc c'était l'engrenage. Et puis de l'affaire, bon, ben, je n'arrive plus à payer mes crédits.
Vous êtes à la retraite depuis quand?
Depuis le mars 2011.
Donc on va dire que vous êtes un jeune retraité.
Voilà, c'est ça.
Tout jeune retraité.
Oui.
Et vous aviez anticipé ce changement de situation entre le...
Ben, un petit peu, oui, parce que, bon, disons, je n'ai pas eu trop de perte de salaire, parce que comme j'avais 2 emplois, j'ai eu une bonne retraite quand même, mais bon, j'ai quand même une perte de, on va dire, 300 euros par mois.
D'accord. Ce qui représente quoi, 5, 15%, 10% de vos ressources par rapport à avant,
c'était... Ben, on va dire, moi, personnellement, hein.
Oui. Bien 10%.
On va dire 10, 12% plutôt.
Hein. D'accord, oui, ce qui est quand même pas négligeable hein, dans un budget. Hein.
Oui.
Et donc, vous nous disiez effectivement que vous aviez souscrit différents crédits. Ces crédits, vous les aviez souscrits depuis longtemps déjà ou...
Oui, bien sûr, depuis un très bon temps. Hein.
D'accord. C'était quelle forme de crédit? Des crédits amortissables ou des prêts personnels ou des crédits renouvelables?
Des crédits renouvelables.
Beaucoup de crédits renouvelables?
Oui, c'est ça.
D'accord. Et je dirais que ces crédits, vous avez eu l'impression de les rembourser ou pas du tout?
Ben, on va dire que non, hein, parce que, comme je vous dis, c'est une histoire sans fin. On prend, quand on a le disponible, on le prend, on s'en sert, puis donc ça revient toujours à zéro, donc c'est toujours le même tarif.
D'accord. Finalement, on a l'impression d'en être toujours au même point. Hein, c'est-à-dire
voilà,
que
c'est ça, on est toujours au même point.
On paye ses mensualités, ses petites mensualités. Alors, c'est vrai que c'est pratique.
Oui, bien sûr.
Mais d'un côté, on se désendette pas.
Voilà, exactement. Les intérêts sont très élevés, les assurances, n'en parlons pas, encore très élevées.
Oui.
Donc, c'est une histoire sans fin.
Alors, généralement, ce qu'on retrouve beaucoup à Crésus, ce sont des personnes qui sont effectivement à la retraite et qui s'endettent pour leurs enfants, alors, non seulement pour leurs études, hein,
oui.
mais aussi pour leur filer un coup de main pour s'installer.
Oui, hein,
on sait que les enfants grandissent vite.
Voilà, exactement.
Et vous-même, vous avez des enfants?
Oui, j'en ai eu 6.
Ah, ben bah ça, c'est une belle famille, hein, 6 enfants.
Ben voilà, c'est ça.
Voilà.
Félicitations.
Ouais, merci.
Et aujourd'hui, vous avez encore des enfants à charge?
Oui, j'en ai encore 2.
Deux? D'accord, oui. qui sont grands, qui sont...
13 ans et presque 18 ans.
D'accord, donc alors le plus grand ou la plus grande va peut-être quitter le foyer dans quelques temps, mais le plus jeune va encore rester au moins jusqu'à sa majorité. Hein,
voilà, c'est ça, hein, ça fait encore 8 ans. Hein.
Donc il faut effectivement...
6 ans, pardon.
6 ans, et c'est vrai que les prestations familiales diminuent pratiquement à zéro. Hein.
Voilà, c'est ça.
Donc tout ça, ça se cumule avec votre baisse de ressources.
Sur le revenu, là, comme on dit. Hein.
D'accord. Alors, vous disiez effectivement que vous aviez de nombreux crédits. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en impayé ?
Oui.
Et jusqu'à quel niveau ? C'est-à-dire que vous aviez beaucoup d'impayés par rapport au nombre de crédits que vous avez ?
Je crois que j'ai bonne raison du mois d'octobre, septembre, août, on va dire 3 mois de retard hein, sur tous les crédits.
Sur tous les crédits. Oui. Et vous avez combien de crédits en tout ?
6.
6 crédits ?
Oui.
Pour un montant de combien, en tout ?
46 000.
D'accord. Et là, quelles sont les mesures que vous avez prises, je dirais, pour essayer d'enrayer ces impayés ? Est-ce que vous êtes en capacité de le faire ?
Moi, j'ai fait un courrier à la Banque de France pour la commission sur endettement.
Donc vous avez...
Ça, c'est recevable.
D'accord.
Et maintenant, j'attends les directives.
Très bien. Donc, vous avez déposé vraiment un dossier de surendettement ?
Oui, et j'ai eu une réponse positive.
Donc vous êtes recevable.
Voilà, c'est ça.
D'accord, donc c'est une bonne nouvelle.
Oui, bien sûr.
Hein, puisque là, effectivement, votre recevabilité va vous protéger, en quelque sorte.
Oui, voilà, c'est ça.
Hein, puisque là, les créanciers ne pourront plus engager des mesures d'exécution forcées.
C'est ça.
Voilà. Alors, est-ce que vous avez senti une différence entre avant et après ou pas ?
Disons, pour l'instant, je ne paye pas mes crédits, donc
oui.
Bien sûr, j'ai de l'argent de côté, mais je n'ai pas encore assez pour tout rembourser.
Oui.
Et moi, comme je vous dis, j'attends la directive de la Banque de France. Normalement, parce que hier, j'ai reçu un recommandé, mais je n'étais pas à la maison, et je pense que c'est peut-être la Banque de France qui me dit, voilà, faut faire ça, mais je ne suis pas encore certain.
Alors...
Et comme je ne peux pas aller chercher mon courrier avant 16h, du fait que ma poste est ouverte que l'après-midi, donc, pour ça, quoi, j'aurais peut-être pu vous dire, tiens,
d'accord.
j'ai reçu ça, puis voilà.
Alors, vous aviez eu le récépissé de dépôt, hein, ça vous l'aviez eu tout
oui,
au début.
Oui, bien sûr.
Alors, peut-être qu'actuellement, ce que vous allez recevoir, c'est l'état des créances.
Oui.
C'est-à-dire que la commission, effectivement, a contacté chacun de vos créanciers.
Oui.
Pour faire un état précis et juste de ce que vous leur devez à ces
oui.
créanciers. Et elle vous renvoie cet état des créances actuellement. C'est certainement ce qui va vous arriver, là, dans votre courrier.
Oui.
Et au regard de cet état des créances, vous aurez normalement 20 jours pour, si vous n'êtes pas d'accord, contester cet état des créances.
Ah d'accord.
D'accord ?
Oui.
Donc c'est ce qu'on appelle ça, on vérifie la validité des créances tout simplement. Hein.
Oui.
C'est-à-dire pour ne pas que les créanciers vous demandent plus que ce que vous leur devez.
Bien sûr.
Hein, s'il y a des informations contradictoires, des choses qui ne sont pas nettes,
oui.
et que vous avez des arguments justement à opposer à vos créanciers en disant « Ah non, moi j'ai payé bien plus que vous ne le dites
oui,
et
oui.
que vous pouvez le prouver », à ce moment-là, il faut contester. Hein.
Ah d'accord.
D'accord ?
Oui.
Donc ça, c'est une chose. Alors ce qui est important au niveau de la validité, de la recevabilité de la demande, hein,
oui.
Vous dites « je ne paye plus mes crédits actuellement », il faut savoir que c'est une obligation de ne plus payer vos crédits.
Oui.
Hein, c'est pas une fantaisie.
Bien sûr.
Hein, vous avez reçu un courrier de la Banque de France.
Oui.
Qui vous dit qu'il vous est fait interdiction de payer vos crédits.
Voilà.
Les crédits qui ont été contractés avant la date de recevabilité.
Oui, bien sûr, c'est ça.
C'est ça, hein, mais c'est important que les auditeurs le comprennent bien.
Oui, bien
sûr. Et pas qu'ils imaginent que vous ne payez pas parce que vous n'avez plus envie de payer ou quoi que ce soit.
Voilà, c'est ça.
On est bien d'accord.
Exactement.
Donc là, effectivement, alors c'est vrai que ce courrier de recevabilité, il n'est pas toujours très clair hein, quand on le reçoit.
Oui.
Parce que c'est vrai que c'est surprenant. On nous dit arrêtez de payer vos crédits.
Oui.
Par contre, ce qu'il faut continuer à payer, c'est les assurances liées au crédit.
C'est ça.
Voilà.
Ça, c'est bien indiqué. Hein. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est bien indiqué sur le courrier que j'ai reçu. Hein.
Donc, il y a eu des efforts aussi au niveau de la Banque de France pour que le courrier soit plus lisible, hein, plus compréhensible, hein, puisque on a vu qu'il y a eu une évolution dans les informations qu'ils transmettent. En plus du document, je dirais, manuscrit, il y a effectivement un schéma qui explique bien ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le déroulement de la procédure encore, Pierre, ou pour vous, c'est clair au niveau de la Banque de France pour l'instant ?
On va dire pour l'instant, c'est clair. Hein.
C'est clair ?
Oui, il n'y a pas de problème. Hein.
Oui. Alors, est-ce que vous avez des recommandations, des conseils à donner à nos auditeurs ?
Bah oui, que je dis qu'il faut pas faut pas hésiter d'aller à la commission sur endettement, parce que après, comme je vous ai dit, c'est une engrenage, c'est une histoire sans fin, puis on fait courant crédit, que moi j'ai entendu des radios, je me souviens plus lesquelles, qui allaient jusqu'à 27, 28 crédits.
Oui, c'est oui, tout à fait. Oui.
Hein? Et puis moi je trouve que ça, le gouvernement devrait faire quelque chose, d'arrêter de, comment dirais-je, de que les gens ils font des crédits un peu partout, puis on regarde pas si on en a un autre et tout, et on pleure, on signe, et puis ça marche, et puis voilà, puis donc oui, l'histoire sans fin.
Vous avez raison de parler effectivement de la politique gouvernementale.
Voilà,
Crésus se bat depuis de longues années maintenant pour oui, mettre en place ce qu'on appelle le registre national des crédits aux particuliers.
Voilà, voilà.
Justement pour éviter le crédit de trop.
Voilà, c'est ça.
Et croyez-moi, c'est un combat de tous les jours pour faire passer ce registre national
oui,
des crédits.
Oui, bien sûr. Je sais que ça n'avance pas. Hein.
Voilà. Et donc nous combattons tous les jours, Crésus, pour que ce fichier soit adopté.
Voilà,
merci beaucoup.
Sûr.
Merci beaucoup, Pierre.
Merci.
Je vous en prie, monsieur. Bonne journée à vous.
Merci. Au revoir. À bientôt
revoir,
sur Radio Crésus.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Crésus. Crésus. La radio qui vous aide. Crésus. Crésus. La radio qui vous aide.
Bienvenue sur Radio Crésus, la radio qui vous écoute. Avec nous aujourd'hui Thierry Edmond, avocat stagiaire.
Oui, bonjour.
Et à l'antenne Régis Alter de Radio Crésus. Nous avons en ligne un tout nouveau témoignage de Chloé. Chloé, bonjour Chloé.
Bonjour.
Oui, Chloé. Alors je vous rappelle le principe de l'émission. Donc des personnes en difficulté nous apportent effectivement leur témoignage, nous disent effectivement comment elles vivent leur situation au quotidien. Face à des difficultés rencontrées parce que pour avoir souscrit par exemple trop de crédits, pour avoir eu des baisses de ressources. Alors aujourd'hui, nous sommes à votre écoute, Chloé, pour savoir ce qui vous arrive. Dites-moi.
Ben, ce qui m'arrive, c'est que voilà, suite à que plusieurs crédits de fait, oui, en effet, on a avec mon ex-conjoint, on avait beaucoup de crédits et après il a perdu son emploi. Donc, suite à ça, on a continué à payer tant qu'on pouvait, jusqu'à un moment où on ne pouvait plus payer. Et ensuite, ben, on a commencé à avoir des courriers de relance, de paiement, de huissier.
Et quand vous dites beaucoup de crédits, c'est combien ? Beaucoup, c'est...
On avait 6 en tout.
6 en tout, et pour un montant d'endettement de combien ?
82 000 euros.
C'est une belle somme, 82 000 euros.
Alors, oui, c'est une très grosse somme, oui.
Oui, alors c'est, je vous pose la question parce que la somme est quand même conséquente. C'était dans le cadre d'une activité personnelle ou professionnelle ?
Il y a les deux.
D'accord, parce que le montant est quand même assez élevé.
Oui.
D'accord.
Donc il y a d'abord perso et après, ben, on a voulu à peu près s'en sortir. J'ai ouvert une entreprise en tant qu'auto-entrepreneur.
D'accord.
Qui m'a plus coûté des sous qu'autre chose.
Pourquoi
donc j'ai arrêté très rapidement.
D'accord. C'était dans quel domaine d'activité, l'auto-entrepreneuriat ?
La revente de matériel.
D'accord. Et c'était du matériel du grand public ou...
Non, pas grand public.
C'était du matériel spécialisé ?
Oui, matériel spécialisé, oui, tout à fait.
D'accord. Et donc, je dirais que le chiffre d'affaires n'était pas à la hauteur de vos espérances ?
Non, pas du tout. Du tout, on a commencé à avoir, j'ai commencé à avoir des factures, des frais à payer, alors qu'à la base, je devais payer juste 10% du chiffre d'affaires.
Oui.
Et en fin de compte, je l'ai arrêté très rapidement parce que ça, c'est plus ça m'a plus rabaissé qu'autre chose.
En fait, vous aviez des besoins en fonds de roulement qui étaient importants et qui n'étaient pas couverts par le fonds de roulement, en fait.
Non.
Vous aviez pas prévu de fonds de roulement suffisant, peut-être, c'est ça ?
Ben, le truc, c'est que ben, à la base, c'était pour avoir un complément de salaire.
Oui.
Et qu'il fallait que je prenne de mon salaire pour subvenir aux besoins de cette entreprise.
De l'entreprise, ce qui arrive souvent. Hein,
Petite question. Oui. Est-ce que vous avez été accompagné au moment où vous avez décidé de monter votre auto-entreprise ?
Accompagné dans le sens...
C'est-à-dire, est-ce qu'on vous a aidé ? Est-ce qu'on vous a donné des conseils ? Est-ce qu'on vous a averti des conséquences du fait ?
Non, le renseignement sur Internet, sur... comment ça pouvait se passer.
Oui.
Parce et que voilà, après plusieurs reportages, ben, on a... c'était suite à ça. Quand on s'est dit, ah, c'est super, s'il y a 13% à payer de frais de...
Du charge, de... oui. Du charge, hein, c'est ça, des charges... S'il n'y a que 13%, oui, oui.
Oui. Ouais.
Mais alors c'est vrai que c'est un peu le revers de la médaille, il y a une facilité effectivement à créer son auto-entreprise, mais d'un autre côté effectivement le risque c'est de ne pas être accompagné et de se méprendre en fait sur la portée de son engagement en fait, hein, c'est
oui.
ça.
Et de oui, pas évaluer. Oui. Ouais.
Alors aujourd'hui donc 82 000 euros je dirais au niveau de l'ardoise, vous avez poursuivi une activité salariée ou pas?
Oui, je continue à travailler.
Oui.
Je travaille à temps complet et donc là...
Et vous arriverez à rembourser ces 90 000 euros avec votre salaire que vous touchez actuellement ou pas?
Non, pas du tout.
Pas du tout?
Pas du tout. Non,
d'accord.
Avec un enfant à charge, non, pas du tout.
D'accord, donc votre salaire vous permet juste de vivre, je dirais, au quotidien,
hein, oui.
Donc d'avoir un toit, de manger, de vous occuper de l'éducation de votre enfant.
Le minimum,
hein.
Oui.
Et comment alors quelle solution avez-vous choisi pour régler cette dette ou pour ne pas la régler?
Ben, j'ai choisi de lancer une faillite personnelle.
Oui, une faillite. Alors une faillite civile ou une faillite personnelle? Une faillite civile peut-être.
Faillite civile.
Oui,
c'est
d'accord.
Ça, oui.
D'accord. Et donc une faillite civile. Donc la faillite civile qui est réservée à l'Alsace-Moselle. Hein, il faut bien le rappeler. Hein, c'est-à-dire qu'on on ne l'a pas dans la vieille France, on va dire. Hein.
Mm-hmm.
Et donc, c'est effectivement, dans certains cas, on peut bénéficier de cet apurement des dettes, tout simplement. Hein. C'est-à-dire qu'on efface d'une certaine façon. Ce n'est pas un effacement à proprement parler. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez déposer votre dossier de faillite civile. Vous l'avez déjà déposé?
Oui, je l'ai déposé. Je l'ai déjà déposé, donc j'attends une réponse.
D'accord.
J'attends une convocation.
Oui, une petite question. Est-ce que vous avez déjà des jugements de condamnation?
Des jugements de condamnation?
Oui, c'est-à-dire des jugements vous imposant de payer telle ou telle somme relativement à tel ou tel crédit.
Monsieur
J'ai déjà eu, oui, que c'est dans le dossier que j'ai déposé.
Oui, donc il y a des injonctions de payer, par exemple, des commandements, des mises en demeure, toutes ces choses-là, par exemple, hein, où on dit vous enjoint.
J'ai eu tout ça, donc j'ai eu tout ça, et tout ça, c'est dans le dossier, j'ai dû mettre dans... Enfin,
d'accord.
Je devais le joindre au dossier.
Oui, juste une petite précision, parce qu'effectivement, c'est nécessaire pour pouvoir enclencher la procédure. Sans condamnation, il est impossible de procéder à la faillite civile, en tout cas de déposer le dossier, hein. Donc ça, il faut bien le préciser aux éditeurs. Il faut être malheureusement condamné pour pouvoir espérer bénéficier des bienfaits de l'effacement dans le cadre d'une faillite civile. Donc, premier point important.
Oui, parce qu'effectivement, un des critères, c'est l'insolvabilité notoire. Et notoire, ça veut dire que c'est la notoriété. Il faut que vos créanciers soient convaincus que vous êtes dans cette insolvabilité. D'accord.
Mais j'ai eu à plusieurs reprises des courriers dans la boîte aux lettres d'un huissier qui m'ont déposé... comme quoi, ben là, j'allais être poursuivie. Donc, ça a duré quand même très longtemps.
D'accord.
Et du coup, là, j'ai déposé donc, le dossier que monté.
D'accord.
Et déposé maintenant au tribunal.
Donc, vous attendez là actuellement une date d'audience, hein, c'est ça?
Tout à fait.
Voilà. Il faut savoir qu'à l'ouverture de la procédure, vous aurez les voies d'exécution qui seront suspendues. Hein, donc, les huissiers, normalement, ne devraient plus vous embêter. En tout cas, s'ils le font, vous leur expliquerez que vous avez déposé un dossier et que la procédure est ouverte. D'accord? Ce qui neutralise leur action pour le moment. D'accord?
Tout à fait.
Voilà. Donc, est-ce qu'au niveau de la faillite, je dirais, civile, vous avez compris effectivement certains éléments, notamment qu'il fallait l'avocat n'était pas obligatoire?
Oui.
D'accord? Donc ça, c'est bon à savoir.
C'est bon à savoir, pas besoin, oui, exact.
Voilà, alors quelquefois, effectivement, l'avocat peut être utile, hein, l'utilité de l'avocat n'est pas à remettre en cause, mais effectivement, on peut se présenter avec son dossier sans nécessairement passer par un avocat. Par ailleurs, l'audience a lieu en chambre du conseil, donc vous serez face au magistrat sans qu'il y ait d'autres... c'est pas une audience publique, hein, d'accord? Donc ça, c'est important.
Oui, oui.
Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, il y a une publication de la décision de la faillite, hein, dans la presse locale. Donc ça, c'est un effet un effet de la faillite civile. Hein.
Mm-hmm.
D'accord.
Oui.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions par ailleurs? Non. Est-ce que c'est clair relativement sur la faillite civile que vous avez engagée? C'est la réponse que vous avez trouvée actuellement. Hein, donc on attend effectivement la suite.
La grosse question que moi perso que j'ai, c'est le s'ils peuvent me prendre mon véhicule.
Ah oui, voilà, donc ça c'est un point important parce qu'effectivement dans le cas de la faillite civile, à un moment donné vous aurez la visite d'un huissier qui va constater l'état de votre patrimoine. Et c'est en fonction donc de la valeur des biens dont vous disposez que peut-être certains de ces biens peuvent être saisis pour être ensuite revendus pour satisfaire une partie des créanciers. Mais tout dépend vraiment de l'état de votre patrimoine. Qu'est-ce que vous avez comme véhicule?
J'ai un véhicule qui a 3 ans, un petit véhicule, c'est une Suzuki.
Oui, et ce qui est important, c'est surtout la valeur en fait, estimée du véhicule.
La valeur, elle vaut elle vaut dans les 5000 euros.
Mmh, mmh.
Alors après, il faudra voir si l'huissier estime nécessaire de saisir ce bien. Est-ce que vous avez une utilité professionnelle avec ce véhicule, une utilisation professionnelle?
J'en ai besoin pour aller travailler.
Voilà, donc ça peut être un argument qui peut être opposé à l'huissier. En dépit de la valeur du véhicule, bon, déjà on verra au bout de la procédure si la valeur sera encore de 5000, mais vous pouvez arguer du fait que tout simplement vous en avez besoin pour travailler, que c'est nécessaire pour votre activité professionnelle et que donc il serait nécessaire que vous la gardiez.
Voilà, okay, alors juste une précision, il y a effectivement toujours ce risque que le véhicule soit mis en vente. Hein. Pour vraiment que ce soit opposable à l'huissier, il faut vraiment que le véhicule soit utile dans une activité professionnelle. Par exemple, c'est le cas des taxis, par exemple. C'est-à-dire que si on enlève le véhicule au chauffeur de taxi, il ne pourra plus vivre.
Oui.
Maintenant, si c'est pour vous déplacer de votre domicile à votre lieu de travail, c'est pas, à proprement parler, un véhicule pour usage professionnel. Attention,
d'accord.
Mais vous pouvez tout de même en discuter avec l'huissier, hein. D'accord?
Ok, d'accord, oui.
Très bien.
Tout ce qui est, tout ce qui est meubles, donc ils prennent tout un...
Alors, pour les meubles, il faut savoir qu'il y a des biens qui sont insaisissables, d'accord? Donc les biens nécessaires, je dirais, à la vie de tous les jours. Donc on ne peut pas vous prendre votre machine à laver, on ne peut pas vous prendre votre
lit...
Voilà.
Table à manger, les chaises.
Voilà, une table pour manger en commun, une armoire.
Des enfants.
Voilà, tout ça. Tout ça, l'huissier ne peut pas les prendre. Hein. Il y a un décret qui fixe les biens qu'on ne peut pas saisir. D'accord ? Mm-hmm. Et donc ça, je dirais que pour cela, vous devez être rassuré.
Okay.
D'accord ?
Ok, d'accord.
Mais de toute façon, je vous invite à prendre contact avec Crésus pour avoir de plus en plus d'informations. N'hésitez pas.
Oui.
Et pour terminer... Peut-être un conseil à donner ou une recommandation à faire à nos auditeurs qui nous écoutent.
Alors, une recommandation, c'est tout simplement que, donc, suite à tout ça, moi, j'ai pris contact donc avec une association.
Oui.
Et que cette association, j'en suis très quand même contente. Je m'attendais vraiment à être rabaissée.
Vous pouvez donner son nom, hein, C'est Crésus.
Oui, donc c'est Crésus.
D'accord,
c'est Crésus. Donc,
voilà.
Je m'attendais tout à fait à être abaissée, à me prendre, mais comment vous avez fait et en fin de compte, non, c'est vraiment très accueillant, on vous met des gens à disponibilité qui répondent à toutes les questions et nous mettent dans le droit chemin, disons quoi.
Merci beaucoup, Chloé, pour ce témoignage émouvant et sincère. Ça nous fait chaud au cœur. Et donc, effectivement, nous avons bien compris qu'effectivement, le non-jugement, c'est très important. Et à Crésus, effectivement, pour nous, c'est une des valeurs, recevoir les gens dans le non-jugement. Merci beaucoup, Chloé, pour ce témoignage.
Merci beaucoup à Crésus aussi pour tout cela.
À bientôt sur Radio Crésus. Merci beaucoup.
Crésus, radiocrésus.fr. Crésus, la radio qui vous aide.
Bienvenue sur Radio Crésus, la radio qui vous écoute. Avec nous aujourd'hui Thierry Edmond, avocat stagiaire, bonjour.
Bonjour.
Et Régis Alter, à l'antenne de Radio Crésus. Donc, sans tarder, nous allons prendre Alain en ligne. Bonjour Alain.
Oui, bonjour.
Alors, Alain, est-ce que vous pouvez nous raconter le motif de votre appel ?
Bon, c'est au sujet d'un dossier de surendettement.
Oui.
Suite à des problèmes financiers, comme on appelle ça. Hein. Et puis, les prêts qu'on a faits, on croyait qu'on arrangerait certaines choses, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Puisque à chaque fois, il y a autre chose aussi qui vous tombe dessus. Hein. Donc, soit c'est un électroménager qui tombe en panne ou qui HS, vous avez une panne de voiture qui coûte cher. Et donc, on paie pain sur pain, pour ainsi dire. Hein.
Oui.
Alors, on se lance pour la banque, pareil, qui vous propose des prêts et qui, après, comment dire, aussi un petit peu. Hein.
Oui. Alors, vous avez souscrit combien de prêts auprès de plusieurs banques, plusieurs établissements ? Combien de crédits ?
Oui. Déjà, la banque elle-même.
Votre banque ?
Une douzaine, hein, puisqu'elle, par tes déblocages, par tes prêts revolving, elle débloque tes sous et qu'il faut,
donc,
faut aussi payer.
D'accord, donc c'est votre banque.
Plus,
oui, juste une précision.
5, disons, des cartes de fidélité, hein, de certains magasins. Hein.
Dans d'autres établissements.
Dans d'autres établissements.
D'accord.
Oui.
Donc, si je comprends bien, si nous comprenons bien, vous aviez votre banque, c'est celle qui tient votre compte courant, c'est ça ou votre...
Oui.
D'accord. Et auprès de cette banque, vous avez souscrit près d'une douzaine, c'est ça, de crédits.
Oui, bon, moi, j'ai donc un prêt, mon épouse, sur
oui.
mon compte.
D'accord.
Et puis, donc, sur mon prêt revolving, dès que quelque chose n'allait pas, donc la banque a débloqué des sous sur ce prêt-là.
Et vous en débloquez combien, jusqu'à combien, au total?
Donc, ça fait 8 ou 9 fois 1005, hein, 1500 euros.
Oui.
Donc, chaque fois, c'est 30, 35. Ça fait 9 fois 35, plus le prêt. Hein.
C'est-à-dire le prêt aussi. Alors, il y avait un prêt amortissable et plus des ouvertures de crédit renouvelable,
voilà.
C'est ça,
voilà,
et,
c'est ça.
Et au global, ça représente combien par rapport à cette banque?
Oh, j'en cherche dans les 50 000, hein, la banque.
C'est quand même important, 50 000
oui.
euros. En... Et c'est uniquement des crédits, on va dire, à la consommation qui sont...
Principalement, oui,
d'accord.
À la consommation, oui. Et puis, comme dit, malgré tout, j'ai essayé de m'arranger avec la banque, de renégocier les prêts, et puis bon, ben...
Oui, quand vous dites vous arranger et renégocier, c'est-à-dire que vous avez essayé de faire un rachat de crédit?
Oui.
C'est-à-dire qu'il vous englobe l'intégralité de toutes ces lignes de crédit en un seul crédit, c'est ça?
Voilà. Mais bon,
ils n'ont pas accepté?
La ouais. banque a refusé, quoi.
D'accord. Et vous en donnez le motif du refus?
Bon, pas spécialement... Non, pas vraiment un motif... comment dire, valable, hein.
Oui.
Donc, ils m'ont dit que, bon, ben, donc, disons, le motif, c'était plutôt avoir un garant.
D'accord.
Et actuellement, les gens ne se portent plus garant avec dans les situations qu'on est.
Alors, c'est vrai qu'en matière de rachat de crédit, hein, les établissements qui souhaitent racheter de multiples crédits, hein, qui sont détenus par les débiteurs, ont besoin, de, comme vous dites, de garantie ou de garant. Alors,
voilà.
ces garanties, elles prennent différentes formes. Ça peut être, par exemple, un bien immobilier. Hein, si
oui.
vous avez une maison, par exemple, eh bien, ils demanderont à prendre une hypothèque, par exemple, sur la maison. Ou si vous n'avez pas de bien immobilier, à ce moment-là, c'est des garants, des garanties personnelles, c'est-à-dire des gens qui se porteraient
oui, oui.
caution ou
voilà.
co-débiteurs avec vous, pour que, si jamais vous êtes défaillant, si vous ne payez plus, que la banque puisse se retourner contre le débiteur solvable. Hein, voilà.
Oui.
C'est une manière de réduire le risque pour la
voilà.
banque. Hein. C'est, voilà.
Vu qu'on n'est pas arrivé à s'entendre ni des trucs, donc il y a une solution qu'on m'a suggéré, hein, de
oui.
faire appel à Crésus, puisque, disons, c'était pas vraiment notre...
votre souhait pour le dossier de surendettement, c'est ça, ou pour...
Oui.
Oui.
Bon, c'était un peu, hein, pour comment dire ça, pour la honte.
La démarche.
Enfin, pour
ouais.
moi-même, hein,
ouais.
cette démarche, hein.
Oui.
Et puis, bon, vu que par la suite... donc, moi, j'ai déjà été mis à la retraite plus tôt que prévu, hein, parce que je suis tombé malade. Hein.
D'accord. Vous êtes à la retraite depuis quand, là?
Depuis le 1er janvier 2007.
D'accord.
Parce que j'ai fait un AVC, hein, et puis, donc, comme j'étais chauffeur de bus, on m'a pris le permis.
Bien sûr,
hein,
oui.
On m'a pas reclassé, on voulait pas me reclasser non plus, alors.
D'accord.
Voilà. Donc la retraite ne ne remplace pas le salaire. Hein.
C'est clair, oui. C'est clair. Alors, vous parliez du sentiment de honte, c'est-à-dire que vous aviez hésité parce que, à un moment donné, vous aviez effectivement peur que ça se sache ou que.
Non, même pas. Enfin, que ça se sache un petit peu aussi, mais oui. Disons que ça soit. On n'a pas su comment ça va se goubier, si on parlait comme ça.
Oui.
Puisque on n'était pas. On n'était pas prêt à ça, pour ainsi dire. Hein.
D'accord. Mais c'est vrai qu'on on a sa fierté. Et que on essaie.
Bon, maintenant, il faut. Vu qu'on s'est lancé là-dedans, donc voilà, oui. on s'est mis ça en tête, et puis en espérant que tout se passera bien.
Alors, actuellement, vous en êtes où dans le dossier de surendettement? À quelle étape vous en êtes?
Bon, là, c'est tout frais. Hein.
Vous avez déposé le dossier, donc, à la
le
Banque de France?
Le dossier est déposé. Oui. J'ai reçu le reçu, tout comme quoi que c'est enregistré.
Mmh, oui.
Et bon, maintenant, il faut... Maintenant, bon, ben, je rembourse certains crédits. Hein,
encore, oui.
Par, comme ils m'ont dit, hein, par petite somme. Hein.
Oui.
Oui, c'est ce qu'on appelle des mensualités de contact. Hein. Voilà. Il faut savoir que quand bien même vous déposez votre dossier, il ne faut pas, si vous avez une capacité de remboursement, hein, que vous avez calculée en fonction de vos ressources, hein, mm-hmm. il faut continuer néanmoins à régler vos créanciers.
La personne me l'a aussi dit, quoi.
Voilà. Parce que c'est aussi un critère qui détermine votre bonne foi à vouloir poursuivre le règlement. Ouais. Maintenant, lorsque votre dossier sera recevable, eh bien, à ce moment-là, le paiement des crédits et des créances sera suspendu jusqu'à ce que la commission se décide sur votre sort.
Oui.
Donc, ça, il faut bien le savoir. Il faut bien distinguer la date de dépôt et puis ensuite la date de recevabilité de la demande. Hein. Les effets ne sont pas les mêmes. D'accord ?
Oui, oui.
Donc, ça, c'est important. Ah, oui. Et donc là, vous êtes effectivement dans l'attente, dans l'expectative de savoir ce qui va se passer. Est-ce que vous êtes soulagé néanmoins parce que vous nous faites pas effectivement de votre sentiment de un peu de honte. Est-ce que a posteriori, maintenant que vous êtes engagé dans la démarche, est-ce que vous dites j'ai bien fait, j'aurais dû le faire plus tôt?
Je pense plus tôt, oui.
Oui.
J'aurais dû me décider plus tôt. Ça aurait déjà fait moins de frais,
oui.
de crédit plutôt de
oui.
J'aurais dû de, ouais.
D'autant plus que vous avez dû subir des frais de votre banque.
Oui.
Hein, parce que quand la banque rejette les multiples impayés, parce que je pense qu'à un moment donné, vous avez dû avoir certains impayés.
Oui, oui, oui.
Hein, donc,
Ils sont. Et puis bon, c'est vrai. Alors, en plus de ça, on a donc, comme je pense, comme tout le monde, il y a encore une fois des frais qui tombent.
Bien sûr, bien sûr.
Donc alors, ça fait. Ça fait toujours plus, ouais. plus. Hein.
Alors, c'est important d'en parler de la responsabilité de la banque aussi, parce que dans votre situation, on se rend compte que votre banque, qui vous connaît depuis, je pense, un certain temps, avec qui tient votre compte courant et peut-être celui de votre épouse aussi, qui oui. vous a quand même octroyé, je dirais, plus d'une douzaine de lignes de crédit, oui. ça relève presque du soutien abusif, hein, parce que arriver jusqu'à une somme de 50 000 euros de crédit, ensuite, de vous taxer, parce que quand forcément, à un moment donné, vous avez des impayés, elle vous taxe, elle vous prend encore de l'argent dessus. Et ces montants, on sait qu'à Crésus, ces montants peuvent s'élever jusqu'à des fois 10% des revenus mensuels, hein, c'est ce qui n'est pas conséquent. Hein. On a vu des personnes qui travaillaient au SMIC et qui payaient tous les mois près de 100 euros de frais de banque. C'est-à-dire que cette personne, elle travaillait pendant un mois pour la banque.
Bah oui.
Donc ça, c'est des choses qui sont quand même importantes à comprendre.
Oui, et, à comprendre
et, ouais. et la tenue budgétaire, ça évite ce genre de dérive. Hein.
Voilà.
Et donc là, effectivement, on en arrive au dossier de surendettement, mais ça, vous devriez normalement pas en arriver là. Je dirais que la banque, elle aurait dû s'arrêter avant et vous conseiller, parce que c'est son rôle aussi, en disant ben stop, on arrête les frais, on va voir ce qui va pas et éventuellement vous oriente vers un tiers qui peut vous aider. Hein. Pour ça, oui, vous avez raison quand vous dites qu'il faut intervenir plus tôt.
Oui, ah oui, oui.
Mais
oui.
c'est un travail.
Non, bon, maintenant, c'est vrai, on a. Ben, on s'est.
Ben maintenant, là, vous avez la procédure qui est en cours.
Et, hein, oui, et donc... puis on se sent, on se sent un petit peu mieux. Si on peut compter peut-être comme maintenant chez vous, une petite aide.
Sur Crésus, oui.
Pour les dossiers, tout ça.
Bien sûr.
Bah
c'est notre rôle, à Crésus. Ouais.
Voilà. ça nous calme un petit peu, quoi.
Voilà, donc c'est important aussi que le moral revienne, je dirais, voilà. Au beau fixe, hein, même si on sait que ce n'est pas facile, hein, parce que y a une lourde charge psychologique, voilà, avec ces créances et toutes ces difficultés.
Bah oui.
Mais je dirais à Crésus, on est très conscient de ça et on sait que l'accompagnement que nous menons a un effet positif aussi sur le moral des personnes que nous accompagnons. Et c'est aussi une manière de rebooster les personnes, hein, puisqu'il faut se battre, hein, on le dit toujours, il ne faut pas,
ah
faut
oui,
pas
bon, se laisser... Ah oui, bon, on ne se laisse pas aller, parce que, bon, on pense quand même qu'il faut, qu'on survit, quoi.
Bien sûr, bien sûr.
Bon, il y a certaines choses qui se font plus comme maintenant les fêtes en famille, bon, il faut y penser ça plus tard, hein.
Eh bien voilà, où on s'arrange autrement, on fait d'autres choses.
Bon, on a même, disons... D'un côté, on regarde surtout parce que...
Mais bien sûr.
C'est comme maintenant, mon épouse qui travaille, eh ben, elle dit, bon, ben, on ne pourrait pas m'acheter une veste cette année pour aller au boulot, on l'achètera plus tard.
Oui.
Il faut faire certains...
Alors, il y a effectivement une situation de crise à un moment donné qu'il faut gérer.
Voilà.
Hein, il faut serrer la ceinture, ça va durer un certain temps, de manière à ce que le budget revienne, je dirais, à un équilibre. Hein.
Ah oui, c'est ce qu'on a cru faire.
Alors, Alain, justement, on va... Nos auditeurs nous écoutent et aimeraient vous entendre dire un conseil, une recommandation. Alors, que pouvez-vous leur dire aujourd'hui?
Bon, la première des choses, c'est que ne pas faire les bêtises que j'ai fait. Ça veut dire, avec toutes les pubs qu'on a à la télé, dans les revues, dans les magazines, donc tout ce qui est, vous allez au Leclerc ou vous allez n'importe où, chez Cora, on vous propose la carte fidélité.
Oui.
Et puis tant que ça vous débloque une certaine somme d'argent,
oui,
alors vous croyez avoir de l'argent, oui, vous l'avez un moment, mais
c'est inutile.
Une autre fois, ben, ça vous bloque, et puis voilà, vous plongez quand même.
Et oui, c'est vrai que c'est l'illusion qu'on a de l'argent, mais en fait, c'est bien un crédit dont il s'agit.
Oui, on croit régler une chose par un autre crédit, alors que ce n'est pas vrai.
Tout à fait. Mais écoutez, Alain, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup à Thierry Edmond pour ses réponses.
Merci à vous.
Et à très bientôt sur Radio Crésus. Merci beaucoup.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Bonne journée encore. Au
merci
revoir.
Alain.
Merci.
Qui vous aide? Crésus. Crésus, la radio qui vous aide.